Chapitre 10. Il était bien près d'une heure du matin lorsque Suzanne, tout en blanc, ayant quitté la sacristie avant la fin des signatures, arriva comme un coup de vent dans l'appartement des nouveaux mariés. Devant la haute cheminée de grès sculptée du petit salon, la fidèle Brigitte, à genoux, soufflait d'une main vigoureuse pour activer la combustion d'un grand feu dont les lueurs éclairaient la plaque de fonte fleur-de-lysée du foyer. En entendant la porte se refermer, la brave fille s'était retournée et, sans se lever, le soufflet à la main, elle avait adressé un large sourire à Mademoiselle d'Herblay. « Quoi, Mademoiselle Suzanne, vous voilà donc revenue de l'église » dit-elle. « Le mariage est-il donc fini ?»« Fini, tout ce qu'il y a de plus fini, ma bonne, et j'ai laissé tout le monde avec notre cher curé pour venir donner ici mon dernier coup d'œil. » « Nous avons une nouvelle maîtresse de maison, Brigitte. Il faut qu'elle se plaise chez elle. »« Eh, mon Dieu, comment ne s'y plairait-elle point ?» s'écria Brigitte, « du moment qu'elle y sera avec notre Philippe. Et puis, si l'oiseau est joli, la cage est assez belle. » Et la servante jeta un coup d'œil plein d'admiration sur le magnifique et sévère mobilier Henri III qui garnissait la haute pièce, caressant du regard les larges fauteuils aux dossiers sculptés, les crédences trapues à pieds tournés et les tentures en vieux cuir de cordoue dont les heures brunies par le temps étincelaient discrètement dans l'ombre. Une porte entr'ouverte donnait dans la chambre à coucher, vaguement éclairée par une lampe dont la lumière se reflétait dans les triples panneaux d'une superbe armoire à glace de style Louis XVI. « Et par là, tout est-il en ordre ?» demanda Suzanne en désignant la chambre. « Tout, j'en réponds. J'ai voulu faire la besogne moi-même. La noce tourne la tête à nos domestiques. Il n'y a rien à obtenir d'eux, les fainéants. » Puis, s'approchant de la jeune fille, les yeux pleins de malice, « Quand on pense, mademoiselle, que dans un an ou deux, ce sera votre tour de tout mettre sans dessus-dessous à la maison. » Suzanne rougit et, se détournant avec un peu d'embarras, « Il n'en est pas question, ma bonne, heureusement. » « Heureusement, reprit la servante. Ah, tant mieux. Mais quel est donc ce gentil monsieur à qui vous donniez le bras au départ et qui avait l'air si attentionné pour vous ?»« C'est monsieur Octave de Beaulieu, répondit la jeune fille en affectant de tourner autour du salon comme pour passer une suprême revue. « Le frère de mademoiselle Claire. Eh, eh !» dit Brigitte avec un gros rire. « Voilà un garçon d'honneur qui a joliment l'air de respirer nos fleurs d'oranger. » « Allons, ma bonne, tu ne sais pas ce que tu dis !» fit Suzanne, rouge jusqu'à la patine des cheveux. Le bruit de plusieurs voitures roulant sur le sable de la cour interrompit fort à propos le caquet de Brigitte. Suzanne s'était précipitée à la fenêtre. Dans l'obscurité, les lanternes brillaient, éclairant la verdure sombre des arbres. « Voilà notre monde qui arrive !» s'écria la jeune fille. Et, ouvrant la porte, elle passa dans le grand salon au moment où la baronne, encapuchonnée et vêtue comme pour une expédition au pôle Nord, entrait, suivie d'Octave et du baron, en s'écriant « Ne vous dérangez pas, c'est nous. Il y a du feu ici, quel bonheur! Je suis un vrai glaçon !» Et, tirant un fauteuil à elle, la jeune femme s'installa devant la cheminée, relevant sa robe et exposant à la flamme ses deux petits pieds chaussés de souliers en satin noir. Puis, poussant un soupir, elle repoussa son manteau de fourrure qui tomba à la taille et dit « Ah, cela va mieux !» Les voitures, maintenant, se succédaient rapidement devant le perron, amenant les parents de Mademoiselle de Beaulieu, les témoins de M. d'Herblay et quelques intimes qu'il n'avait pas été possible de laisser à l'écart. M. Moulinet, Athénaïs et le duc avaient assisté à la cérémonie. La fameuse berline de gala et les livrées de grande tenue des valets de pied avaient servi en cette circonstance. Malheureusement, l'obscurité était profonde et la splendeur de cet éclatant équipage n'avait pas produit tout son effet. Moulinet aurait donné 100 francs pour qu'il fît au moins clair de lune. L'astre des nuits avait été incorruptible et ne s'était pas montré. L'ancien juge au tribunal de commerce était, du reste, en plein désenchantement. Venu de Paris, croyant assister à un mariage dans le grand monde, il était tombé au travers de la plus bourgeoise des cérémonies. Il espérait voir les plus nobles familles représentées à cette noce, et dans le salon, en ce moment, il apercevait... Qui ? le notaire qui lui avait vendu la terre de la Varenne, les parents et les témoins des mariés. C'était une dérision. Cependant, Moulinet avait eu un instant de véritable émotion et il avait trouvé que la cérémonie prenait des proportions grandioses. C'était quand, en descendant de Beaulieu pour se rendre à l'église, les voitures avaient dû traverser la foule compacte des ouvriers de M. Derblay, rangés en silence sur la place. Les braves gens n'avaient pas été invités à la messe, mais ils n'avaient cependant pas voulu laisser leur cher patron aller à l'église sans qu'ils fussent là pour tirer leur chapeau à sa jeune femme. Et, vêtus de leurs habits des dimanches, ils s'étaient groupés devant le portail, attendant le cortège. Dans la nuit, cette masse de 1500 ou 2000 individus, hommes, femmes et enfants recueillis, parlant bas, paraissait énorme. Et quand, sur le passage des voitures, tous les fronts se découvrirent, Moulinet éprouva une violente oppression. Il voulut sourire et saluer, comme il avait si souvent vu les personnages officiels faire au jour de fête, mais brusquement saisi et troublé, il avait senti sa gorge se serrer et il s'était mis à rire sans savoir pourquoi. Rappelé à lui par un regard irrité d'Athénaïs, il avait mis pied à terre avec une grande dignité, prenant des airs de tête superbes et redressant les plis de son pantalon gris perle un peu froissé. L'église lui parut étroite et sale. Il s'assit avec une grimace sur les salles de bois qui garnissent le chœur et jeta sur ceux qui l'entouraient des regards dominateurs. Il n'y avait pas 20 cierges allumés à l'autel et le bon curé avait mis les mêmes ornements sacerdotaux qui lui avaient servi 8 jours auparavant pour marier la fille du menuisier. Moulinet avait un vieux fond voltairien d'ancien abonné du siècle. Il s'était senti en humeur de railler et, se penchant vers le duc, il avait voulu entamer une conversation. Celui-ci, levant les yeux, l'avait regardé d'une si étrange façon que le père d'Athénaïs n'avait pas cru devoir insister. Il avait reporté son attention sur la cérémonie qui se poursuivait, simple comme pour un pauvre. L'orgue seul, touché par une main savante, avait accompagné de ses chants les paroles du prêtre. Et sous ses voûtes froides et nues, les sons graves de l'instrument avaient résonné avec une mélancolie profonde. Le duc, pâle et le sourcil froncé, semblait gravement absorbé. Ce chant lui fit mal. Par un retour subit de sa mémoire, il se retrouva dans la sombre église de Saint-Germain-des-Prés, assistant à l'enterrement de son père. C'étaient les mêmes sons plaintifs de l'orgue, la même obscurité piquée de points éclatants par la flamme des cierges, la même odeur de cires allumées et d'encens évaporés qui porte au cœur et étouffe. Il avait alors à ses côtés sa tante qui pleurait en le regardant, et Claire et Octave, vêtus de noir comme lui, qui lui serraient tendrement les mains. Et maintenant, il était seul. Ces êtres chers qu'il avait entourés, consolés, qui avaient été si bons, il s'était séparé d'eux et pour jamais. Les liens qu'il attachait à eux, il les avait rompus et volontairement. Cette Claire qu'il avait adorée était la femme d'un autre. Et lui, il allait être le mari d'une étrangère dont il avait servi, il s'en rendait bien compte, les haineux projets. Une immense tristesse s'empara de lui et il déplora amèrement sa faiblesse. Il avait rendu le mal pour le bien à ceux qu'il avait recueillis, aimés, quand il était resté orphelin. Il avait ainsi payé sa dette. Mais ne s'était-il pas puni lui-même? Et, en abandonnant Claire, n'avait-il pas renoncé à son bonheur? Il fut alors amené à comparer la conduite de Philippe à la sienne, et il ne put s'empêcher de reconnaître qu'autant il avait été ingrat et égoïste, autant le maître de forge s'était montré dévoué et généreux. Et il avait pu, lui, épouser la femme qu'il aimait, quoiqu'elle fût sans fortune. Il travaillait. Le duc regretta amèrement son inutilité. Il n'était dans le monde qu'une valeur négative. Comme un zéro, pour qu'il eût une signification, il était nécessaire qu'on mît un chiffre devant lui. Pour qu'il trouvât à tirer parti de lui-même, il avait fallu qu'un riche bourgeois s'entichât de son grand nom. Mais par lui-même, que pouvait-il? Rien. Il était un homme de luxe. On se l'offrait comme on achète un joli cheval de parade. Ces réflexions qu'il n'avait jamais faites lui inspirèrent une horreur profonde pour Moulinet. Il se vit son esclave. Furieux, il résolut de se révolter contre son pouvoir et de le dominer. En même temps, Athénaïs lui apparut ce qu'elle était en réalité, une petite bourgeoise sans largeur dans les idées, sans grandeur dans le caractère, bassement envieuse et méchante. Il la regarda, agenouillée sur son prie-dieu, guindée dans sa superbe robe trop luxueusement ornée pour une jeune fille, bâillant distraitement avec un air assommé. Puis ses yeux se dirigèrent vers Claire, qui, inclinée sous ses voiles blancs, semblait abîmée dans une prière obstinée. Et, au mouvement de ses épaules, le duc devina qu'elle pleurait. Auprès d'elle, debout, immobile et le visage sévère, Philippe dressait sa haute taille. Était-ce donc là l'homme qu'elle aimait et qu'elle avait préféré au duc ? Bligny, en un instant, découvrit le sens des actions de Mademoiselle de Beaulieu. La situation, qui depuis 15 jours était obscure pour lui, devint lumineuse. La véritable position du maître de forge lui apparut. Et, voyant Claire si belle dans sa douleur, une pensée traversa son esprit qui amena un fugitif sourire sur ses lèvres. Le Bligny, sincère et tendre qu'il avait été pendant 2 semaines, disparut pour toujours, et il redevint le blasé, sceptique et froid que la corruption russe avait fait. Ce monsieur d'Herblay, le principal artisan de l'humiliation qui lui avait été infligée, il se promit de tirer de lui une très douce vengeance. Ce batteur de fer, en possession définitive d'une adorable femme telle que Claire, était-ce possible à supporter ? C'était bien ce qu'il ferait voir avant qu'il fût longtemps. Elle pleurait, se dit-il, elle déteste cet homme et elle m'aime encore. Toute son assurance lui était revenue. Jusqu'à ce moment, il avait eu l'air penaud et gêné. Se sentant sur un bon terrain, il reprit son attitude fière et dégagée de grand seigneur, sûr de sa supériorité. La baronne s'étant tournée de son côté à la fin de la messe, il lui lança un coup d'œil si chargé d'ironie qu'elle fronça le sourcil avec cette hostilité instinctive des chiens de garde qui devinent les gens mal intentionnés. Quand, la messe terminée, on passa dans l'étroite et pauvre sacristie et que la mariée, relevant son voile, s'offrit au regard de ses amis et de ses parents, le duc chercha vainement sur le visage de Claire la trace des larmes qu'il lui avait vu verser en silence. Le feu de son orgueil les avait séchées, et, calme, souriante, elle parlait avec une liberté d'esprit complète. Le duc fut mécontent, il eût voulu l'avoir abattue. Il pensa que la fière jeune femme se défendait contre lui et qu'il y aurait lutte. Il se promit donc de combattre et il ne désespéra pas de triompher. Remonté dans la superbe berline avec son futur beau-père et Athénaïs, il lui fallut supporter le flot des observations que Moulinet avait dû contenir pendant la cérémonie. C'était quelque chose de gai que ce mariage à minuit dans une église sépulcrale où le froid vous tombait sur les épaules comme un manteau de plomb. Il ne comprenait pas du tout les mariages de cette façon-là, l'ancien juge au tribunal de commerce. Dans 3 semaines, il mènerait sa fille à l'hôtel et là, on verrait ce que c'était pour lui qu'une noce. La messe aurait lieu à la Madeleine. Il avait commandé tout ce qu'il y avait de plus cher. Tout le cœur illuminé, des fleurs, des arbres verts et enfin des chœurs et des solos. « Soli !» interrompit le duc, que cet étalage de splendeur commençait à agacer. « Solo, soli !» reprit Moulinet, qui n'attachait pas grande importance à l'exactitude de la terminaison. « Enfin, des chants, exécutés par des artistes de l'opéra, Monsieur Faure, tout ce qu'il y avait de mieux. Il en aurait pour 15 000 francs. Mais qu'est-ce que ça pouvait lui faire ? Moulinet ne mariait pas tous les jours sa fille, et il faudrait qu'on en parlât pendant longtemps. Monsieur, si peu qu'on en parle, on en parlera toujours trop, interrompit le duc d'un ton tranchant comme une lame de couteau. Mais, mon gendre, voulut répondre Moulinet vexé. Mais, monsieur, interrompit encore une fois le duc, je ne suis, d'abord, pas encore votre gendre, et ensuite, vous m'obligerez fort en ne vous servant jamais vis-à-vis de moi de cette appellation qui est tout ce qu'il y a de plus commun, de plus boutiquier. Enfin, je vous ferai remarquer que nous voici arrivés chez M. d'Herblay et je vous prierai en grâce, dans notre intérêt à tous, de parler le moins possible. » Et, descendant lentement de la voiture qui venait de s'arrêter, le jeune homme offrit gracieusement la main à Mademoiselle Moulinet pour l'aider à mettre pied à terre, pendant que l'ancien juge de commerce, complètement interloqué, se demandait avec inquiétude si le duc le prenait pour une bête. Dans le grand salon de Pont-Aven, la marquise écoutait, assise au fond d'un large fauteuil, Bachelin qui lui parlait à voix basse. Madame de Beaulieu avait le matin même pris le vieux notaire de demander à Philippe l'autorisation d'apprendre à Claire sa véritable situation de fortune. Le mariage étant conclu, la marquise avait pensé qu'il serait juste de faire connaître à la jeune femme et sa ruine et le tendre désintéressement de son mari. Le maître de forge recevrait ainsi la juste récompense de sa délicatesse. Philippe, avide d'épargner tout souci et toute amertume à Claire, s'y était refusé. Il ne voulait pas que la jeune femme, en mettant le pied dans sa maison, pût croire qu'elle y entrait en quelque sorte amoindrie. Assombrir cet esprit délicat et sensible, et pourquoi ? Pour s'assurer à lui une jouissance d'amour-propre, pour s'attirer de la part de Claire un remerciement confus et peut-être humilié. Il lui sembla indigne de lui d'user de pareils moyens pour gagner l'affection de Mademoiselle de Beaulieu. Il voulait plus que sa reconnaissance, il aspirait à son amour. « Mon cher Bachelin, je ferai ce que M. d'Herblay désire, » avait répondu la marquise. « Mais je ne sais pas si, à sa place, je montrerai tant de raffinement. En toutes circonstances, il m'étonne, je vous l'avoue. Il a une largeur de vue, une élévation de caractère surprenante. C'est vraiment un homme extraordinaire. C'est ce que j'ai eu l'honneur de vous dire, madame la marquise, quand je vous ai parlé de lui, souvenez-vous-en, répondit Bachelin. C'est un véritable gentilhomme. Oui, oui, nous avons eu la main heureuse, ajouta la marquise, et c'est à vous que nous devons cet heureux résultat. Espérons que ma fille saura comme nous apprécier son mari. Elle est bien pâle, Bachelin. Le vieux notaire se retourna. Claire, blanche comme une morte, sous sa coiffure de fleurs d'oranger, lui apparut telle que Juliette, se relevant de sa couche de marbre à la voix dorée de Roméo. Le duc venait de s'approcher d'elle et, se courbant avec un mélancolique sourire, « Nous allons nous éloigner, Claire, disait-il, et avant, j'ai tenu à vous parler. J'ai le cœur profondément triste et troublé. D'un mot, vous pourriez me rendre la tranquillité. Soyez bonne, dites-moi que vous me pardonnez. » Claire releva le front avec orgueil et, jetant au duc un regard triomphant, elle répondit d'une voix qui ne tremblait pas « J'ai tout oublié. J'aime mon mari. Adieu, duc. » Bligny tressaillit et rendant bravade pour bravade « Je souhaite qu'en parlant ainsi, vous soyez sincère, dit-il. » Puis, avec un ton presque menaçant, il ajouta « Au revoir, Claire. » Et, s'inclinant de nouveau, il s'éloigna. « Eh bien, duc, vous partez ?» dit le baron en arrêtant le jeune homme au passage. « Oui, répondit le duc froidement, je n'ai plus rien à faire ici, c'est le tour du mari. »« Eh, eh !» dit le baron, « vous paraissez n'être pas sans quelque amertume. En voyant Claire mariée, avouez que vous avez des regrets. » D'un coup d'œil railleur, le duc montra Claire qui se soutenait à peine. « Des regrets » fit-il, « est-ce moi qui en ai ?» « Mon cher, voilà une réponse assez prétentieuse et passablement ridicule, » reprit M. de Préfond. « Mais, puisque vous vous croyez un tel vainqueur, faites-moi un plaisir. Regardez M. d'Herblay et dites-moi s'il a l'encolure d'un mari à qui on prend sa femme. » Le duc dévisagea Philippe, qui, dans un coin du salon, dressait sa haute taille. Son visage, bruni par le grand air, respirait l'énergie. La colère d'un tel homme devait être terrible. « Peu !» dit le duc d'un ton léger. « Depuis Vulcain, les forgerons n'ont pas de chance. »« Eh bien, répondit avec gravité le baron, croyez-moi, gare au marteau. » Bligny haussa les épaules avec insouciance et, rejoignant M. Moulinet dans une embrasure de porte, « Nous nous en irons quand vous voudrez, » lui dit-il. « Ce n'est pas moi qui vous retiendrai, » murmura l'ancien juge au tribunal de commerce. « Quelle réception, mon cher duc! On n'a pas seulement offert un verre d'eau. Chez nous autres bourgeois, on appelle ça une noce sèche. Vous verrez comment moi je ferai les choses. Je donnerai deux dîners et un bal qui feront sensation. Et quand nos invités sortiront de chez moi, je vous réponds qu'ils n'auront pas l'estomac dans les talons. » Moulinet aurait pu continuer à énumérer les splendeurs qu'il projetait. Le duc ne l'écoutait pas. Il regardait Athénaïs qui faisait ses adieux à la mariée. La jeune fille s'était approchée de Claire et, lui prenant les mains, elle se livrait à de bruyantes démonstrations de tendresse. « Nous serons tout près l'une de l'autre pendant l'été, disait-elle. La Varenne n'est qu'à une lieue. Mais pendant l'hiver, comme tu vas me manquer! Ah, sans toi, Paris me semblera vide. Est-ce que M. Derblay t'enfermera à Pont-Aven, sans pitié, sans rémission? Je sais bien qu'ici, tu n'auras rien à désirer. Tu es aimé, tu aimes. Promets-moi que tu penseras à moi dans tes joies et dans tes tristesses, si tu en avais. Tu sais que j'en prendrai toujours ma part. » Ces perfides et cruelles paroles trouvèrent Claire impassible. « Sois sûre, répondit-elle, que j'apprécie ton amitié à sa juste valeur. Mais tu sais, le bonheur ne cherche pas de confident. Je serai heureuse sans le dire. » Athénaïs, la rage dans le cœur, désespérant de dompter son intrépide ennemi, voulut au moins ne lui épargner aucune vexation. « Embrasse-moi, veux-tu ? » dit-elle. « Bien volontiers, répondit sans hésiter Claire. Et ses lèvres, douces et brûlantes, se posèrent sur le front d'Athénaïs. Mais la jeune femme était au bout de ses forces, et prenant vivement le bras de la baronne qui se trouvait près d'elle, elle l'entraîna hors du salon en disant « Sortons, j'étouffe !» La marquise, inquiète, avait suivi sa fille. En un instant, le visage de Claire se décomposa. Ses yeux s'enfoncèrent dans leurs orbites. Sa bouche se tira et elle parut près de défaillir. Mais l'énergie de son âme dompta encore une fois la faiblesse de son corps et, regardant avec tendresse sa mère penchée anxieusement sur elle, « Ce n'est rien, dit-elle, un peu de fatigue et d'émotion, mais je me sens déjà mieux. » Et, en effet, le rouge de la fièvre montait à ses joues et ses yeux brillaient. La marquise, que sa fille avait tenue avec soin dans l'ignorance des tourments qui l'avaient agitée, eut en ce moment le vague soupçon que Claire l'avait trompée. L'union qui la satisfaisait si complètement allait-elle donner à sa fille le bonheur qu'elle méritait? Était-ce avec un esprit calme et un cœur confiant que Mademoiselle de Beaulieu s'était engagée? L'excellente femme, en une seconde, réfléchit plus qu'elle ne l'avait fait en 15 jours, et elle se posa une foule de questions auxquelles elle ne put répondre. Habituée à subir la volonté des autres, ayant pris autrefois son parti des infidélités de son mari, s'étant pliée au tendre despotisme de sa fille, subissant tout, elle ne s'était jamais préoccupée de la responsabilité. Elle était de ces créatures sans caractère qui s'accommodent de toutes les situations et ne comprennent pas qu'on essaie de modifier sa destinée. Elle avait laissé Claire faire ce qui lui avait plu. Mais, à cette heure grave, elle se demanda, pour la première fois, si elle avait agi avec prudence. Très troublée, elle chercha une approbation dans les yeux de sa fille, et, la prenant dans ses bras, « Tu es heureuse, mon enfant, n'est-ce pas ? » lui dit-elle. « Vois-tu, mon rôle de mère est terminé. Tu vas être maîtresse de ta vie. Dis-moi que j'ai bien fait tout ce qui dépendait de moi pour que tu sois heureuse. » Claire vit dans les yeux de sa mère l'angoisse qu'il avait saisie. Elle fit un dernier effort pour la tromper, et, l'embrassant tendrement, « Oui, mère chérie, tu m'as faite heureuse. N'aie aucun souci et aucune inquiétude. » Et comme la marquise, à ces paroles, s'était mise à fondre en larmes, « Ne m'attendris pas, » ajouta la jeune femme d'une voix étouffée. « On pourrait croire... » Elle ne compléta pas sa pensée. Et serrant nerveusement sa mère une dernière fois dans ses bras, « Va, » dit-elle, « il faut nous séparer. Va, à demain. » Madame de Beaulieu, rassurée par ce calme apparent, retrouva sa sécurité un instant troublée et rentra dans le salon sans la moindre préoccupation. Au même moment, Suzanne revenait dans l'appartement de Madame Derblay avec Brigitte. La jeune fille, peu confiante dans la dextérité de la fidèle jurassienne, avait voulu l'accompagner pour suppléer aux défaillances de son service. La douce enfant allait, légère comme un oiseau, tournant dans l'appartement, se préoccupant des moindres détails, veillant à tout. Claire l'avait regardée en silence, mécontente, soupçonneuse, et pensant avec irritation qu'elle aurait, dans la sœur de son mari, une surveillante de tous les instants, dont les yeux, éclairés par l'affection, ne perdraient pas une de ses pâleurs, pas un de ses abattements. Elle vit dans Suzanne un espion naturel, et, emportée par l'exagération de ses sentiments, elle se prit à la haïr. Cependant, la jeune fille avait enlevé le voile et la couronne de Claire et, délicatement, les tournait dans ses doigts, faisant bouffer les plis de tulle, redressant les fleurs, visiblement tourmentée par un secret désir, mais hésitante à le faire connaître. Enfin, s'avançant vers Madame d'Herblay, « Ma sœur, dit-elle en rougissant, on croit dans notre province que la fleur détachée de la couronne d'une mariée que l'on aime porte bonheur. Je vous aime bien tendrement. Voulez-vous me permettre de prendre une de ces fleurs ?» Claire regarda froidement la jeune fille et, d'un brusque mouvement, arrachant la guirlande qui ornait sa robe, elle la jeta à ses pieds en s'écriant « Si ces fleurs portent bonheur, elles me sont inutiles. Tenez, les voilà, prenez-les toutes !» Suzanne recula étonnée. Le bouquet tomba à ses pieds et tournant vers Claire ses yeux pleins de larmes. « Vous paraissez n'y pas tenir à ces fleurs, dit-elle doucement. Et pourtant, c'est mon frère qui vous les a données. » Claire fut troublée par la plainte de cet enfant. Elle fit un rapide retour sur elle-même. Mais l'emportement de sa nature prit aussitôt le dessus et sa main, qu'elle avait tendue à Suzanne, retomba froide et fermée à son côté. « Laissez-la, ma chère petite, disait en même temps la baronne à Mademoiselle d'Herblay. Elle a besoin d'un peu de calme. Ne vous faites pas de chagrin et reprenez votre petit bouquet. Il vous servira de modèle un de ces jours. » Et montrant à Suzanne une figure souriante, elle la reconduisit, rassurée et confiante, jusqu'à la porte du salon. Puis revenant à Claire, qui était restée assise, les yeux fixes, sans parole, plongée dans ses douloureuses pensées, « Eh bien, ma chère, à quoi penses-tu donc ?» dit la baronne. « Tu viens de faire de la peine à cette pauvre petite, et bien gratuitement. Comment ne parviens-tu pas à gouverner tes nerfs ? Franchement, écoute, » ajouta-t-elle en essayant de plaisanter, « on te conduirait au supplice sur l'air de la marche funèbre du cinquième acte de la Juive, que tu n'aurais pas l'air plus bouleversée. » Claire jeta à son amie un regard si chargé de reproches que celle-ci redevint grave en un instant. « Voyons, parle-moi, dit-elle, qu'y a-t-il ? » Claire se leva, marchant devant elle comme au hasard, puis revenant à la baronne dont elle prit les mains avec angoisse. « Mais tu ne vois donc pas combien je souffre ? Tu ne comprends donc pas que je deviens folle ? Dans un instant, vous tous qui m'aimez, vous serez partis, et je resterai seule dans cette grande maison inconnue. À quoi me retenir ? Vers qui me tourner ? Tout ce qui m'attachait au passé se brise. Tout ce qui pouvait m'attirer vers l'avenir a disparu. Tu te désoles, dit la baronne, comme si tu étais une véritable abandonnée. N'auras-tu pas toujours les affections anciennes? Et n'en vas-tu pas avoir de nouvelles, sincères et dévouées? Ton mari est là, il t'adore, aie confiance. La baronne s'arrêta. À ces mots, ton mari, elle avait vu Claire frémir. « Oh, si tu savais ce qui se passe en moi !» murmura la jeune femme. « Ce mariage que j'ai voulu, malgré tout, avec l'emportement d'un orgueil révolté, maintenant qu'il est accompli, il me fait horreur. Cet homme qui est mon mari, je voudrais le fuir. Tiens, ne me quitte pas, reste là, il n'osera pas venir tant que tu seras auprès de moi. Oh, cet homme qui m'inspire la première crainte de ma vie, comme je le hais !» « Mon Dieu, mais tu m'épouvantes !» s'écria la baronne vraiment effrayée. « Ta mère n'est peut-être pas encore partie. Veux-tu que je l'appelle ?»« Non, » répondit vivement Claire, « c'est d'elle surtout que je veux me cacher. Tu as vu comme je me suis contenue devant elle. Il faut qu'elle ignore mes craintes, qu'elle ne se doute pas de mon désespoir. Bonne mère, c'est par amour pour moi, par faiblesse, qu'elle m'a encouragée, aidée à conclure ce mariage. Si elle pouvait penser... Oh non, c'est assez de moi pour souffrir. Tout ce qui a été fait, c'est moi qui l'ai voulu. Moi seule dois en supporter la peine. Mes défaillances sont sans excuse, elles sont indignes de moi. Sois tranquille, elles ne se renouvelleront pas. » Et montrant à la baronne qui l'observait, inquiète de l'âpreté de sa voix, de la violence de ses paroles, un visage impénétrable, « Va rejoindre ton mari, ajouta la jeune femme, sans arrière-pensée, sans inquiétude. Embrasse-moi et que tout ce qui vient de m'échapper soit oublié par toi quand tu auras passé le seuil de cette chambre. Me le promets-tu ? » ?»« Je te le promets, dit la baronne. À demain. » Et, étouffant un soupir, jetant un dernier regard sur son amie, Madame de Préfonds sortit en murmurant : « Pauvre Claire!